savons ce qui se cache derrière cette petite phrase que nous prononçons de nombreuses fois dans une journée. Quelle heure est-il ?
Au quatrième top, il sera exactement...
midi et des poussières. Midi et des poussières.
Un rendez-vous presque quotidien sur Radio Barthas.
Des invités, des reportages, des chroniques, de la musique. Une heure d'émission pour raconter ce qu'il se passe ici et un peu plus loin.
Midi et des poussières.
En réalité, pour être tout à fait précis, actuellement c'est le temps atomique, moins 10 secondes, plus une heure.
Bonjour à toutes et à tous, vous êtes bien à l'écoute de Radio Barthas et il est tout juste midi et des poussières. On va passer un petit moment ensemble en ce jeudi 11 décembre qui, le saviez-vous, est la journée internationale de la montagne. Alors des journées internationales, il y en a vraiment beaucoup. Le 28 janvier par exemple, c'est la journée européenne de la protection des données. Le 10 février, c'est la journée internationale des légumineuses. Le 11 mars, c'est la journée mondiale de la plomberie. Et le 25 mars, c'est la journée mondiale de la procrastination. Allez, je m'arrête là, je rentre dans le vif du sujet. Aujourd'hui donc, on est le 11 décembre et c'est la montagne qui est mise à l'honneur. Cette journée, elle a été instaurée par l'ONU comme occasion de sensibiliser à l'importance des écosystèmes de montagne et d'appeler à des solutions visant à renforcer la résilience, réduire la vulnérabilité et accroître la capacité des montagnes à s'adapter aux menaces quotidiennes et aux événements climatiques extrêmes. Alors cette année, un thème a été choisi, ce sont les glaciers, ces immenses réserves de glace et de neige réparties sur l'ensemble de la planète et que l'ONU présente comme bien plus que des paysages gelés. Ce sont des composantes vitales pour les écosystèmes et les communautés. Ils abritent environ 70% de l'eau douce de la planète. Et leur fonte accélérée, c'est l'un des stigmates les plus visibles et les plus impressionnants de la crise climatique en cours. Cette fonte, elle représente aussi une crise humanitaire. Elle augmente les risques tels que les inondations, les débordements des lacs glaciaires, les glissements de terrain ou l'augmentation de l'érosion et des sédiments, ce qui met en danger les populations et les infrastructures qui se trouvent en aval. Alors, en Lozère, il n'y a pas de glaciers, mais il y a des montagnes. Et ici, c'est pas la fonte des glaces qui inquiète, mais la réduction de l'enneigement qui ne fait que croître. Pour la dernière décennie, donc 2015-2024, le réchauffement hivernal en France, il atteint en moyenne plus 1,3 degré par rapport à la période de référence précédente 1976-2005. Et d'après Météo France, à l'horizon 2050, cette tendance, elle va s'accentuer avec une durée d'enneigement réduite de plusieurs semaines et une perte de 10 à 40% de l'épaisseur moyenne du manteau neigeux en moyenne montagne. Bon, alors l'enneigement, il disparaît pas d'un coup, il se transforme, il arrive plus tard, il repart plus tôt et ça reste variable. Certains hivers peuvent encore être très neigeux, il faut bien garder en tête qu'on parle de tendance, mais ça ne va pas aller en s'arrangeant, ça c'est sûr. Et j'ai voulu évoquer ce sujet avec quelqu'un qui est très directement concerné ici sur notre territoire, c'est Denis Boissière. Il est le porte-parole de la station Alti-Aigoual sur le mont Aigoual. C'est l'unique station de ski du Gard, mais dont la majeure partie du domaine se trouve en Lozère, et qui offre des pistes de ski alpin, de luge et de ski de fond. Alors avec son associé, c'est Denis Boissière qui gère la station depuis sa mise en délégation de service public en 2019. J'ai échangé avec lui par téléphone dans la longueur. Il y avait beaucoup de choses à dire. Vous l'entendrez, beaucoup de sujets sont évoqués. Alors j'espère que ça vous intéressera. Moi, je trouve que ça soulève des questions sociétales importantes et très intéressantes pour penser d'une part le changement climatique qui nous touche tous, mais ça questionne aussi le rapport que chacun entretient avec son territoire, ce qu'on fait de la nature, comment on l'aménage, comment on la protège, comment on en profite. Bref, je vous laisse écouter. Bonjour Denis Boissière.
Oui, bonjour.
Merci d'être avec nous. Pour commencer, est-ce que vous pourriez nous présenter la station Alti-Aigoual, nous faire un peu son historique et nous rappeler depuis quand elle existe ?
Ça commence déjà par une bonne question. La station Alti-Aigoual a été créée en 1968. Exactement, elle s'appelait station Prapeiro à l'origine. Voilà, c'est une station qui est gardoise officiellement, mais la large majorité des pistes est en Lozère, surtout depuis qu'on a supprimé quelques pistes. Maintenant, j'allais dire, c'est presque 80% du domaine qui est en Lozère. Voilà, depuis une bonne entente, je pense, entre les mairies qui s'en occupaient, c'est-à-dire d'un côté MERES et d'un côté maintenant la nouvelle commune qui s'appelle Val d'Aigoual. Et pendant environ 50 ans, ça a été une régie municipale. Malheureusement, quelques soucis, notamment en 2016, le décès d'un petit garçon, voilà, en font que, petit à petit, l'idée de mettre cette station en délégation de service public, donc une entreprise privée qui fait le travail à la demande des élus pour les élus, a germé. Et en 2018, il y a eu un appel à candidature pour une mise en DSP. Voilà, donc depuis 2019, c'est, on peut dire en privé, mais c'est pas vraiment du privé, parce que les tarifs des remontées mécaniques sont votés par la municipalité, les tarifs des secours, pareil, les dates d'ouverture sont décidées par la municipalité, et par contre, petit aussi changement, c'est que ce n'est plus la mairie de Val-d'Aigoual qui gère, mais c'est la communauté de communes du Massif de l'Aigoual, donc une vingtaine de communes. Voilà une première approche historique.
Et alors, parlons donc du présent aujourd'hui. La station Altiégual, elle se maintient, mais elle fait face à des grandes difficultés, notamment économiques. Alors, il y a, vous me corrigez hein, si je me trompe, je crois 400 000 euros de dette. Est-ce que vous pourriez un peu nous dresser le tableau, la situation économique de la station ?
Alors, oui, elle est en difficulté, principalement des dettes qui datent justement des toutes premières années. Là, ça va faire continuer l'historique. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? D'abord, avant qu'on reprenne, 2017, une fantastique année sur le massif de l'Aigoual. Voilà, une ouverture énorme. 2018, un mois de janvier, décembre et janvier, très très bon, mais comme il n'y avait plus d'enneigement sécurisé, la station avant, les cinq dernières années avant qu'on la reprenne, n'utilisait plus d'enneigement sécurisé.
Pardon, mais quand vous dites enneigement sécurisé, c'est de la fabrication de neige artificielle, c'est bien ça?
Oui, voilà, c'est ça. C'est-à-dire que la collectivité a engagé beaucoup d'argent public dans les années, début des années 2000. Et on a estimé que s'il fallait refaire tout cet aménagement, il y en aurait pour 8 millions d'euros, entre 5 et 8 millions d'euros. Et nous, dans notre reprise, pour environ 150 000 euros, on a remis en état l'aménagement sécurisé. Et notre investissement a aussi surtout consisté à faire en sorte que les canons à neige soient beaucoup moins voraces en électricité. Voilà, on n'a pas pu aller jusqu'au bout puisque malheureusement les aspects financiers ont fait qu'on n'a pas pu rénover le parc dans son entièreté, mais c'était en ça que ça consistait.
Ok, donc, on reviendra sur cette question-là un peu plus tard, mais je vous laisse reprendre le
ouais,
fil. Donc,
ouais. Ouais. Alors, donc après 50 ans de public, je reconnais qu'avec mon associé de l'époque, Thomas Flavier, l'objectif était surtout de ne pas être mauvais la première année. Hein. Première année que c'était le privé, la station compte énormément pour le massif de l'Aigoual. On n'avait pas le droit du tout de se tromper. Donc tout cet investissement, au lieu de le diluer sur plusieurs années, on a vraiment choisi d'être au point la première année. Au point la première année d'un point de vue matériel, mais aussi humain, avec l'embauche de personnes, etc. Et là, ben, vous pouvez le checker sur Internet, l'hiver 2019 est le plus chaud des 50 dernières années. Donc la première année, ça a été la catastrophe intégrale. L'année d'après, 2020, de la neige, du froid, mais malheureusement, et on ne comprend toujours pas pourquoi, en plein air, interdiction d'ouvrir les remontées mécaniques, alors que tout était au rendez-vous. Le début janvier 2021, explosion dans notre usine à neige. Il n'y a pas eu de blessés, c'est ça qu'il faut retenir. Mais notre usine à neige a été complètement hors de circuit pour à nouveau quelques années. D'ailleurs, l'hiver qui nous arrive, 2025-2026, devrait être le premier hiver où on peut réutiliser notre enneigement sécurisé. Donc, effectivement, 2021, 2022, 2023, 2024. Sans enneigement en sécurité, c'est une gageure. À nos altitudes et nos latitudes, on savait que ça n'allait pas marcher. On l'avait dit d'ailleurs dès 2019. On ne nie pas le réchauffement climatique. On pensait simplement on pense toujours d'ailleurs qu'il y a une dizaine, une quinzaine d'années à venir. Et 10 ans ou 15 ans à venir, bah, c'est loin d'être rien pour notre massif de l'Aigoual qui est quand même bien sinistré d'un point de vue touristique. Et donc voilà, donc un peu d'enneigement sécurisé pour assurer 10-15 ans de revenus le temps qu'on puisse se transformer en quatre saisons, c'était vraiment pas mal. C'est une grosse partie de nos dettes arrive là, mais c'est pas tout. C'est parce que donc 2021 et 2022, on a mis des activités estivales en place, on a travaillé avec le centre équestre, on a l'allocation de vélos, on a essayé de gérer le petit accrofilé qu'il y avait. Enfin voilà, on a essayé de faire des choses, mais les recettes sont pas au rendez-vous. Et on l'avait dit dans le dossier en 2019, on a été sûr, c'est-à-dire que En l'état actuel, des petites activités estivales, ça n'avait pas marché. Il fallait absolument qu'il y ait une activité estivale majeure qui ait de l'attractivité. Donc, pendant le Covid en 2020, avec la communauté des communes, avec les agents de la communauté des communes et les élus de l'époque, on avait essayé de voir qu'est-ce qu'on pouvait faire comme activité estivale. Donc, il y a 4 projets qui ont émergé. Les 4 projets ont été pré-présentés au Parc national des Cévennes. Donc, les 4 projets, c'était une tyrolienne. C'était également un parc acrobranche, vraiment important, parce qu'à la base, on devait gérer un parc acrobranche, mais finalement, avec le parc national, il y a eu plein de négociations, et c'est devenu un tout petit parc acrofilé, qui n'a aucune attractivité, qui est trop petit. Donc, un parc, mais un vrai parc acrobranche, là aussi, plus ou moins refusé à cause des arbres. En ce qui concerne la tyrolienne, c'était refusé parce que Dixit, le parc national, c'est les gens ne viennent pas dans le parc national pour voir un câble au-dessus de leur tête. Voilà, c'est pas moi qui le dis, ça a été dit dans la presse. Et donc, refusé également. Les arbres, je l'ai dit. Ensuite, comme autre projet, on avait un petit parc aqualudique avec des toboggans, des sauts, etc. Bon, refusé, pas de plan d'eau dans le parc national des Cévennes.
On entend cette frustration d'avoir vu ces projets refusés, mais finalement, ces projets-là aussi, ils sont pensés pour compenser les difficultés pendant la saison hivernale autour du ski. Et finalement, en fait, tout découle de cette problématique du faible enneigement qui n'affecte pas seulement la station Altigual, mais qui affecte absolument toutes les stations de France et d'Europe. Et c'est pas juste que la neige tombe au mauvais moment, comme je l'ai lu écrit sur une des productions de Altigual, c'est juste qu'elle tombe moins et puis ça va pas aller en s'arrangeant. Toutes les prévisions le confirment. Donc en fait, il faut surtout réfléchir à cette situation-là de l'après-neige. Comment penser l'après, comment imaginer un nouveau modèle, parce que ce soit demain ou l'année prochaine ou dans 10, 20, 30 ans, c'est sûr et certain qu'il y aura de moins en moins de neige.
On est entièrement d'accord avec ça. Mais, et en fait, on a été choisi à l'unanimité par la collectivité avec un projet qui était, la collectivité voulait, notre objectif, c'est de transformer cette station en 4 saisons. Et le stratégie qu'on a utilisée et qu'on a dit très clairement et pour laquelle on a été choisi, c'est d'abord, on remet en état l'hiver, et dès qu'on a l'hiver qui est remis en état, on s'occupe de l'été. Sauf que l'été, les 4 projets, à nouveau, ont été refusés. Donc, je vous en ai décrit 3, je vous en ai décrit le 4e, c'est le principal, je vais le garder pour la fin, c'est celui qui se fait dans la majorité des stations de France. C'est pas parce que ça se fait ailleurs qu'il ne faut pas le faire, c'est pas parce que, et ça correspond vraiment à notre territoire, c'est bien sûr utiliser les remontées mécaniques pour faire de la descente à VTT. Voilà, ça permettrait vraiment aux gens de rester là, l'investissement serait extrêmement réduit, je pense que entre 300 et 500 000 euros, c'est-à-dire 7, 8, 10 fois moins que certains projets qui ont eu lieu sur les Gaules récemment. Donc voilà, ça aurait vraiment eu un vrai rentabilité. Mais pour répondre à votre question, non, ce n'est pas, ces projets n'ont pas été là pour pallier le manque de neige, c'était prévu dès le départ.
Voilà,
c'est pas un palliatif.
Mais le fait que ça ne marche pas, en effet, c'est de la faute de personne. C'est comme ça, c'est le climat. Et malgré donc ces productions de neige artificielle dans lesquelles vous avez beaucoup investi, là aussi, donc je rappelle pour les auditeurs, la production de neige artificielle, ça consiste à projeter des micro-gouttelettes d'eau dans l'atmosphère afin qu'elles congèlent pour retomber au sol. Et ça fait comme ça une sous-couche qui reste et donc qui permet d'avoir des pistes skiables. Mais là aussi, avant cette production de neige artificielle, c'était envisagé de manière ponctuelle pour limiter un peu l'impact naturel de l'enneigement d'une saison à l'autre. Mais aujourd'hui, si on l'envisage comme le seul et unique moyen d'avoir de la neige, on ne peut pas s'empêcher de se dire qu'il y a quelque chose d'un peu absurde à tout ça. Je ne sais pas ce que vous en pensez. De faire reposer toute une saison sur de la production de neige artificielle. D'autant que, même si j'entends que vous essayez de limiter la consommation d'électricité pour la produire, c'est quand même énergivore et c'est aussi des infrastructures lourdes et très coûteuses qu'il faut faire fonctionner et qui coûtent de l'argent du coup à la station.
Non, elle ne coûte pas d'argent à la station parce que donc depuis maintenant 2 ans, ça c'est une difficulté, on a la solidarité maintenant qui est arrivée. grâce à Gilles Mélo, notamment quelqu'un qui travaille pour nous. Et en fait, on recycle beaucoup de matériel des Alpes, ou du matériel qu'ils ont en surplus, les fournisseurs aussi. Donc on ne fait strictement, on serait incapable de le faire d'ailleurs, on ne fait strictement aucun investissement. C'est, et même l'entretien, puisqu'on n'a plus de salariés, et ce sont les grandes stations qui viennent le faire. Il y a beaucoup de stations qui fonctionnent, en tout cas tout le début de saison, avec l'enneigement sécurisé. Nous, en ce qui nous concerne, on ne peut pas. C'est-à-dire que les canons ont été posés à l'époque pour la partie descente. Mais les remontées mécaniques ne sont pas enneigées. Donc de toute manière, nous, notre fonctionnement ne peut pas reposer 100% sur l'enneigement sécurisé. C'est pas possible. Mm-hmm. Donc on rentre pas dans la catégorie que vous avez dit. Mm-hmm. Nous, c'est simplement un complément. Voilà. Donc c'est, je pense, écologiquement, c'est une mauvaise image, mais elle n'est pas méritée. Enfin, c'est mon avis, en tout cas.
Vous avez évoqué la solidarité montagnarde avec donc ces stations qui vous prêtent leur matériel ou vous recyclez leurs infrastructures. Il y a aussi de la solidarité locale. Donc il y a cette station, la station Altiégual, c'est une station familiale. Il y a des gens qui y sont très attachés et qui s'impliquent pour aider. Vous faites régulièrement appel à des bénévoles. Il y a beaucoup de gens qui spontanément viennent pour proposer leur aide. On peut d'ailleurs voir sur votre page Facebook différents témoignages filmés de personnes qui racontent leur attachement. Vous comptez beaucoup sur ce soutien aussi de ces bénévoles?
Alors, c'est bien parce que c'est encore ce matin, j'ai eu des gens que je ne connaissais pas qui ont téléphoné de manière spontanée, exactement ce que vous décrivez. Donc ça nous touche beaucoup. Presque ça nous étonne, hein, parce que tout le monde dit que notre société est devenue égoïste, mais il y a encore des gens qui sont prêts à venir passer les week-ends, à se déplacer, etc. etc. Oui, alors, donc ça c'est vraiment quelque chose qui est super important, cette solidarité locale. Elle nous porte, elle nous encourage à continuer. C'est vrai que les entreprises françaises, le système français fait que le coût du travail est extrêmement cher. Et du coup, ben, c'est le modèle économique qu'il faut développer. Il y a déjà d'autres stations qui le font aussi. Et un mix, nous on est vraiment tombé, on est en train de faire un mix entre du bénévolat et du salarié. L'année dernière, on était quand même monté à quasiment 40% de bénévolat, c'est énorme. Cette année, je pense qu'on est même parti pour aller un petit peu plus haut. On a effectivement ouvert un sondage en ligne et les personnes s'inscrivent. Bon voilà, dès qu'il y aura la neige, ça va se booster un peu. Mais on a déjà une trentaine de personnes qui sont prépositionnées sur certains week-ends. Et ça va monter, je pense. Il nous faut à peu près 20-22 personnes par week-end. Donc ça va sûrement monter aux alentours de 50% de bénévolat. C'est le modèle économique qui va bien. Voilà. Et couplé à. Parce qu'on n'a aucune subvention. On a reçu trois petites subventions exceptionnelles, montants très faibles, de la ville de Mervès, la ville de Bar-les-Cévennes et une ville dans le Gard, Lannujol. Pour l'instant, on a trois petites subventions.
Oui, donc, et pour compenser, vous avez lancé du coup une cagnotte solidaire pour faire appel aux dons aussi.
Alors oui, on a mis donc deux cagnottes Litchi qui ont plutôt bien marché. L'an dernier, ça a été juste fondamental, ça nous a permis de payer notre assurance.
C'est ce qui vous a permis, j'ai lu, c'est ce qui vous a carrément permis d'ouvrir en fait l'année dernière.
Oui. Ouais. Oui. Là, on est malheureusement cette année à peu près dans la même situation. Hein. C'est-à-dire que là, il faut vraiment qu'il neige rapidement, sinon on ne va pas y arriver. Donc on attend quelques petites subventions, nouvelles subventions exceptionnelles de mairie. Et ensuite, grâce à la solidarité montagnarde, on a du matériel qui n'a jamais été aussi en bon état que maintenant. Mmh. On a trois magnifiques dameuses, on a des motoneiges vraiment au top, on a l'aspect mécanique et électrique de la station qui marche bien, donc c'est pas le moment de mourir.
Donc on entend, hein, la motivation est là, le matériel est là, tout est là, mais ce qui manque c'est la neige. Et moi du coup j'ai un peu lu la page internet de la cagnotte solidaire, et ce qui me frappe, je dis ça quand même vraiment pour voilà, susciter le débat, hein, la discussion, ce qui me frappe c'est votre optimiste et parfois il semble presque irréaliste, voire utopique. D'ailleurs vous le dites, hein, je cite: le temps assez perturbé et pluvieux de l'année 2024 nous donne aussi des raisons peut-être utopiques d'espérer que cette fois la neige tombe l'hiver prochain. Enfin voilà, c'est extrêmement difficile de, à ce point, dépendre de cette neige qui est vouée à disparaître. En fait, il faut peut-être admettre que c'est la fin du ski alpin, que c'est la fin de ce modèle, plutôt que de continuer de s'accrocher à tout prix, de croire et aussi de faire croire aux gens que ça va continuer, parce que le fait est que ça ne peut pas continuer.
Alors c'est une très très bonne question. Alors d'abord, nous on ne nie pas, hein, on a toujours dit que, on nous dit que 2050 il n'y aura plus du tout de neige. Bon, avant 2050, il y a 2025, 2030, 2035, donc il y a encore un petit peu de et il y a plus d'investissement et plus d'argent public gaspillé. Donc, bon, ça mérite de continuer, premièrement. Deuxièmement, on n'a pas le choix. Nous, si on veut payer nos dettes, on n'a absolument pas le choix que de continuer. Pourquoi ? Parce que comme le Parc national des Cévennes nous a empêché de s'adapter au réchauffement climatique et de mettre des activités estivales qui valent le coup, on n'a pas le choix que de continuer. Donc ça, c'est la deuxième raison. Troisièmement, effectivement, on y croit. Alors, l'espoir, il est quoi ? C'est que si l'enneigement sécurisé enfin marche, eh bien, on pourrait ouvrir 25 jours. Clairement, 25 jours, à un autre nouveau modèle économique, on sauve la station, on rembourse nos dettes.
On espère donc que la neige sera au rendez-vous.
Et le froid surtout, et le froid.
Oui, et le froid, parce que même pour la neige artificielle, comme on l'a dit, il faut du froid pour transformer l'eau en glace. Ouais. Et une question peut-être qui fâche, mais si jamais, et je n'espère pas pour vous, mais si jamais les conditions cette année ne sont pas encore au rendez-vous, qu'est-ce qui va se passer ? Est-ce que la station devra fermer ? Ce serait la dernière tentative ?
Alors, clairement, cette année se présente une très mauvaise, malgré tout, quelque chose de nouveau est arrivé très récemment et qui est de très mauvais augure. Donc, depuis notre signature du contrat, la collectivité avait 5 ans pour mettre aux normes et réhabiliter, le terme exact, c'est réhabiliter tous les bâtiments de la station. Pour plein de raisons, eux aussi ont des problèmes. Voilà, tout le monde a des problèmes. Et du coup, ces travaux n'ont pas pu être faits. Bon, nous, on est plutôt des gens gentils et on sait ce que c'est les élus. On préfère des élus que des gens qui restent tranquillement sur leur canapé à critiquer. Donc, on est plutôt toujours du côté des élus. Et donc, on n'a engagé aucune démarche. Bon. Et donc, depuis le 1er mai 2024, tous les travaux devaient être faits. Bon. Mmh. Enfin, les travaux devaient commencer en novembre 2025. Et, sauf qu'il y a à peu près une semaine, on nous a dit les levées de la fermeture administrative de la préfecture n'ont pas été faits. Donc, c'est une énorme surprise et surtout une grande incompréhension parce que le bâtiment, il est fermé d'un point de vue sécurité depuis 2009. Donc ça fait 16 ans qu'officiellement ce bâtiment est fermé. Donc il y a eu un manque d'entretien latent depuis très très nombreuses années. Il n'y a aucune, quand je dis bien aucune, là j'insiste vraiment fort, aucune raison objective, aucun danger nouveau qui justifie cette interdiction, si ce n'est une position et une posture administrative. Cette situation est assez catastrophique, c'est-à-dire qu'on risque, on espère tous, et je sais qu'autour de moi, il y a beaucoup de gens qui l'espèrent aussi, qu'on ait de la neige, qu'on ait du monde, et qu'on ne puisse pas accueillir les gens au chaud. Mmh. Et là,
oui, parce que c'est là où les gens peuvent se restaurer et utiliser aussi les toilettes.
Oui. Le restaurant, c'est à peu près 50% de notre chiffre d'affaires. Sauf que si les gens savent qu'ils n'ont pas un endroit au chaud pour après le ski, ils ne monteront pas. Mmh. C'est 70 voire 80% en moins si on n'a pas de bâtiment. Donc la situation est catastrophique. C'est-à-dire que, et c'est tout récent, et une fois de plus, on a un courrier qui nous dit pas de problème, vous allez pouvoir utiliser ce bâtiment cet hiver. Donc la situation est vraiment... Et donc, certaines personnes disent, c'est sûrement, si jamais la station, en tout cas notre petite entreprise meurt, l'obligation de réaliser les travaux n'est plus là. Mmh. Et c'est vrai que, là où je suis d'accord avec les élus, c'est que faire des travaux, on parle d'un million d'euros, pour un bâtiment, une station qui sert
que l'hiver,
1-2 mois par an, c'est pas bien, mais moi je trouve que c'est pas bien. Donc il y a une impérative nécessité à ce qu'on se développe en 4 saisons. Mmh. Et le nouveau directeur du Parc national des Cévennes, à qui j'ai des relations, je pense, très 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 correctes, m'a dit, si tous les élus parlent le même langage, si les socioprofessionnels en font la demande, les hébergeurs, les autres pratiquants, si la station en fait le même, s'il n'y a pas d'association environnementale qui mette l'eau là, et s'il y a les associations sportives qui sont aussi avec vous, on trouvera une solution. Okay. Sauf que, en tout cas je parle pour le massif de l'Aigoual, il y a eu le climatographe qui a été fait, qui a coûté beaucoup d'argent, et ce climatographe, il est le témoin du réchauffement climatique. Et donc, les personnes se sentent relativement liées et de faire que des choses qui n'ont aucun impact. Et effectivement, si on cherche à faire une activité estivale qui n'a aucun impact sur le climat, aucun impact environnemental, on ne fera rien. On fera rien. Et donc, on se retrouve extrêmement coincé. Il faut aussi dire qu'on est, écoutez bien, la seule station de France, à être 100% dans un parc national. Non seulement ce parc national est un parc national habité, et donc voilà, moi je n'ai rien contre le parc national, qu'on soit clair, mais Si on veut appliquer les mêmes réglementations que dans les autres parents, ce n'est pas possible. Et qu'est-ce qu'il y a? Je sais que je suis une radio de Florac et qu'on est dans l'antre du parc national, que le parc national amène 10 millions d'euros minimum de retombées économiques sur le Florac. Et donc c'est très compliqué ce que je suis en train de dire. Mais, et donc à nouveau, je ne suis pas contre. Mais il faut absolument qu'ils prennent en compte que c'est un parc national habité, que la station de ski existait avant le parc national. Donc il y a des solutions très simples, des solutions intelligentes. La forêt de l'Aigoual fait 16 000 hectares. La station fait un petit 20 hectares. Il suffirait de créer une alcôve pour sortir la station. Voilà. Donc il reste des solutions et pour les fonctionnaires du parc national, ça serait un soulagement. Parce que ils pourraient faire leur travail sereinement. Là, ils peuvent pas. Parce que j'espère qu'au fond d'eux, ils se disent, bien sûr qu'ils doivent être convaincus par l'extrême importance de la biodiversité, mais j'espère qu'ils sont convaincus aussi que ce territoire a besoin de vivre, parce que socialement, les gens ont besoin de travailler. Ils ne peuvent pas tous partir à campagne. Je vais vous prendre un seul exemple, quelque chose qui nous
je voulais juste dire que voilà, on ne peut pas parler à la place des gens du parc national des Cévennes, donc je les inviterai pour peut-être poursuivre cette discussion, ou leur, en tout cas leur proposer un droit de réponse à tout ce que vous venez de dire, et ce sera intéressant de poursuivre là-dessus. Pour conclure cette discussion, donc aujourd'hui on est le 11 décembre, c'est la journée internationale de la montagne. Vous, Denis Boissière, qu'est-ce que vous lui souhaitez à la montagne?
Alors, je lui souhaite de rester un lieu de vie. C'est fantastique d'habiter en montagne, c'est très difficile. Ça veut dire, pour nos enfants, ça veut dire pas faire des activités comme les autres. Ça veut dire prendre le véhicule pour aller faire du foot, du tennis. C'est une vie qui a vraiment des côtés difficiles, mais je pense que c'est une vie où on a les pieds sur terre et on est très proche de la nature et on ne protège bien que ce qu'on connaît bien. Les gens qui habitent en montagne sont des amoureux de la nature et ce que je souhaite à la montagne, c'est qu'elle reste un lieu de vie. Ce que je souhaite à la montagne, c'est qu'elle reste un lieu d'accueil des ruraux. Parce que qu'est-ce qui se passe aussi, c'est que de plus en plus, l'accès à la nature est devenu difficile à cause de la réglementation. Donc, en bordure des grandes villes, il y a des infrastructures qui se créent, de VTT ou autres, et les gens vont pratiquer, en plus c'est moins loin, c'est moins cher, donc ils vont pratiquer en périphérie des villes. Et nos territoires vont être abandonnés. Là, pour l'instant, le plaisir de venir à la montagne, s'il n'y a pas d'activité organisée, oui, il y a la contemplation, ça correspond à des personnes, mais ça correspond assez peu à des familles. Et la clientèle des familles, elle ne va plus venir en montagne si on ne lui propose pas des activités ludico-sportives. Et donc, je lui souhaite de rester un lieu de vie, un lieu attractif, et un lieu où les gens ont plaisir à y vivre et à y faire des activités.
Merci beaucoup, Denis Boissière.
Avec plaisir.
Desde mis montañas, nieve, viento y sol, he bajado al valle pa' verte, mi amor. He bajado al valle con una canción tuita de perfume, nieve, viento y sol. Truje la esperanza, truje la ilusión, y solo desdenes me llevo de vos. Voy pa' mi montaña a pedirle a Dios pa' estas penas mías, nieve, viento y sol. Música. pa las penas, viento pa el dolor y sol pa las sombras de mi corazón. A llorar a solas y a pedirle a Dios pa estas penas mías. Nieve, viento y sol. Nieve pa' las penas, viento pa' el dolor y sol pa' las sombras de mi corazón. Llorar a solas y a pedirle a Dios pa' estas penas mías, nieve, viento y sol.
C'était Atahualpa Yupanqui avec ce morceau « Nieve, viento y sol » pour un peu de cette contemplation qu'évoquait Denis Boissière. Oui, la contemplation, c'est important, on en a tous besoin. Dans cette chanson, le poète, chanteur et guitariste argentin évoque un homme qui monte sur la montagne pour demander à Dieu « Nieve, viento y sol » de la neige, du vent et du soleil. La neige pour guérir les peines, le vent, la douleur et le soleil, les ombres de son cœur. Voilà, j'espère que ces questions, ces enjeux évoqués avec Denis Boissière, porte-parole, je le rappelle, de la station Alti Igual, pourront se poursuivre avec le Parc National des Cévennes. En tout cas, bien sûr, sur Radio Bartas, il y a toujours un droit de réponse. L'antenne est libre et ouverte à toutes et à tous. Quiconque peut venir s'y exprimer, tant que les propos tenus sont empreints de respect et que l'échange et le dialogue sont accueillis avec bienveillance.
Midi et des poussières.
Midi et des poussières, un rendez-vous presque quotidien sur Radio Bartas.
Et quelle heure est-il? Midi et des poussières? Ah non, il est midi moins disque, d'un coup d'un seul, ça vient d'arriver. Victor est arrivé. Salut Victor.
Bonjour.
Alors Victor, vous le connaissez peut-être sous le nom de Midi moins disque, hein. Il cuisine pour vous en musique tous les vendredis au tiers-lieu La Pompe, à prix tout démocratique. Et pour Radio Bartas, il propose désormais chaque jeudi un Midi moins disque radiophonique pour nous faire découvrir un disque de sa collection. Et en ce jour, en cette journée internationale de la montagne, il a puisé pour essayer de dégoter un disque qui résonne avec ça. Alors Victor, qu'est-ce qu'on va écouter ?
On va écouter un morceau d'un groupe qui s'appelle Kikagaku Moyo, qui est un groupe de Tokyo, composé de plein de personnes différentes qui sont multi-instrumentistes. C'est une espèce de collectif en fait, musical qui a dimension variable. L'album, en tout cas, on va écouter le dernier morceau de l'album. Qui est une espèce de morceau cabane en fait, enfin quelque chose qui est très très réconfortant. Ça s'appelle d'ailleurs Cardigan Song, donc on pourrait dire le morceau de gilet. En tout cas quelque chose avec lequel on arrive à s'envelopper et qui m'a évoqué vraiment quelque chose de plus que de la montagne, enfin vraiment plus sensation de découverte d'un paysage derrière un autre et puis les choses qui s'enchaînent en fait tout doucement c'est un morceau depuis lequel on regarde un paysage en tout cas.
Ok, et ben on l'écoute, on en reparle après. Alors je vais lancer Thank you. Waouh. Hyper doux, hyper enveloppant en effet.
Ouais, c'est sûr, ouais. Bah non, mais c'est vrai que ça... Enfin, moi, je m'imagine en voiture, ou j'imagine les gens en voiture, là, en train d'écouter ça. C'est vrai que c'est très... Enfin, ça emmène forcément quelque part, on sait pas trop où, mais... Enfin, moi, j'aime beaucoup ce morceau, parce que j'ai toujours l'impression d'arriver dans une cabane que je connais jamais. Et je trouve ça assez chouette de pouvoir le partager.
Et il chante en anglais ?
Non, je crois pas.
Ouais, enfin, j'arrivais pas à bien entendre, mais en fait, on n'a pas du tout besoin d'entendre les paroles, on est juste porté par... Mais c'est du japonais ?
Oui, oui. Ouais. Enfin, en tout cas, ils alternent de temps en temps, mais à la limite, c'est pas ce qui est le plus important dans leur morceau. La plupart du temps, c'est leur voix, ça devient un instrument aussi, et puis ils la font varier énormément. Et voilà. Donc ça, c'est un morceau plutôt doux qui, du coup, termine cet album-là. Mais ce groupe-là, c'est pas que ça non plus, c'est vraiment un savant mélange entre des morceaux très tendres comme ça et des choses beaucoup plus brutales. Enfin, en fait, il y a toujours dans les morceaux deux facettes, quoi. Et c'est ça que j'aime bien avec ce groupe-là.
Est-ce que tu peux redonner le nom du groupe ?
Kikagaku Moyo, voilà.
Ok, mais oui, ça fait très morceau divers, et moi je me suis fait la réflexion que c'est tellement beau en fait d'écouter la musique sur des vinyles, et le petit grésillement qu'on entend, ça évoque presque de la neige comme ça qui tombe.
Ouais, c'est sûr que là on l'entendait particulièrement, enfin ça va encore, mais c'est vrai que c'est, oui, ça rapporte de toute façon de la profondeur à l'écoute, ouais.
Et ben merci beaucoup pour cette découverte, en tout cas pour moi et peut-être aussi pour certains d'entre vous, auditeurs, auditrices de Radio Bartas. Et alors, si on veut, est-ce que tu le passeras demain à midi à la pompe pour midi moins disque, ce disque-là ?
Demain midi, oui, je pense plus, parce que le soir, ça va être un peu une autre atmosphère, je pense. On va être un peu plus à danser. Donc,
Oui, parce que demain, c'est une journée particulière pour midi moins disque qui sera là le midi et le soir à la pompe.
Oui, voilà.
Qu'est-ce qui va se passer alors le soir ?
Le soir, on va servir ce qu'on servait le midi, et puis on va commencer à mixer en même temps qu'on sert à manger, et puis après ça se poursuivra vraiment en mix vinyle à danser, quoi, jusqu'à à peu près 1h du matin.
Trop bien. Et ben rendez-vous donc là-bas demain. Merci beaucoup, Victor.
Ben merci à toi.
À très bientôt.
Midi et des poussières.
Et autre rendez-vous demain que je vous propose, ça se passe à Saint-Enimy. Et il s'agit de la projection conférence du documentaire qui s'appelle Voyageurs de l'histoire, qui a été réalisé par l'aventurier conférencier héroltais Willy Minec. Alors lui, il est parti en décembre 2024 pour une expérience inédite, parcourir en plein hiver les 270 km du chemin de Saint-Guilhem-le-Désert à travers le Gévaudan et le Languedoc, équipé comme l'étaient les voyageurs du XIIIe siècle. Un voyage dans le temps et les espaces naturels aux frontières de nos connaissances sur l'époque. Une aventure pensée comme une véritable exploration immersive et documentaire pour répondre à la question, c'était comment de voyager au Moyen-Âge ? On écoute tout de suite la bande-annonce du film que je vous lance dans 2 secondes.
Imaginez-vous, nous sommes au début de l'hiver 1271, Marco Polo commence son périple sur la route de la soie. Au même moment, un voyageur s'apprête à partir de l'Aubrac pour un pèlerinage. Il se lance seul, au cœur de l'hiver, à travers les gorges et les causses. Je vous propose de revivre ce voyage médiéval, mais dans les conditions les plus proches de l'époque. On oublie complètement le téléphone portable, le sac à dos, la tente, les chaussures de randonnée, les cartes, une simple montre. Là, chaque aventure était un véritable défi. Nous allons donc vivre une nouvelle forme d'exploration, arpenter un territoire pour mieux comprendre l'histoire. Et pour répondre à la question, mais c'était comment voyager au Moyen-Âge ? Si vous aussi, vous vous demandez, mais comment faisaient-ils pour se protéger du froid ? Quelles étaient leurs chaussures ? Que mangeaient-ils ? Ou tout simplement, quels étaient les dangers ? Alors, je vous donne rendez-vous sur la piste du voyageur de l'histoire.
« Talala, tant de suspense. La projection donc du film Voyageurs de l'Histoire, c'est le rendez-vous du jour de demain, vendredi 12 décembre. C'est à 20h30 et ça se passe à la salle des fêtes de Saint-Enimie. Et après le film, voilà, il y aura un échange possible avec le réalisateur Willy Minec qui sera présent. C'est la fin de cette émission qui se termine sans le point météo de Léo, car Léo est malade, ce qui peut être une indication météorologique en soi. On lui souhaite en tout cas un bon rétablissement et moi je vous souhaite une bonne journée sur Radio Bartas.
Sait-on ce qui se cache derrière cette petite phrase que nous prononçons de nombreuses fois dans une journée ? Quelle heure est-il ?
Au quatrième top, il sera exactement...
midi et des poussières. Midi et des poussières.
Un rendez-vous presque quotidien sur Radio Bartas.
Des invités, des reportages, des chroniques, de la musique. Une heure d'émission pour raconter ce qu'il se passe ici et un peu plus loin.
Midi et des poussières.
En réalité, pour être tout à fait précis, actuellement, c'est le temps atomique, moins 10 secondes, plus une heure.